Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sylvain Sipel, journaliste à Orient 21 et à la revue America. Sylvain Sipel, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez dans Orient 21 justement un article qui parle un peu des débats internes dans le Parti démocrate aux États-Unis, où tout d'un coup il semblerait que la question de la relation entre les États-Unis et Israël ne soit plus une question de tabou.
Oui, alors je corrigerai une chose, c'est le tout d'un coup, c'est-à-dire que ça a été un lent processus. Hein, on ne peut pas dire que ça a commencé vraiment maintenant. Mais effectivement, tout d'un coup, là vous avez raison, ça émerge. Et alors il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Ce qui émerge, c'est une rupture avec Israël tel qu'il est aujourd'hui. Et qui est une rupture qui, dans la jeunesse juive, tous les sondages le montrent. Il y a eu des flopées de bouquins déjà, d'articles là-dessus aux États-Unis. Dans la jeunesse juive, il y a un éloignement d'Israël de manière générale et en particulier de la politique israélienne qui est absolument indéniable. Après, si vous voulez, on pourra en parler.
De la jeunesse juive américaine, voilà.
De la jeunesse juive américaine.
Donc qui est traditionnellement au Parti démocrate puisque...
Ça fait maintenant... ça fait trois générations que c'est comme ça, si vous voulez. Les juifs américains... vote démocrate entre 72 et 78%, quel que soit le candidat, quelles que soient les circonstances. Ils ont voté Obama alors que beaucoup de gens craignaient que, à cause de la question israélienne précisément, ils ont voté comme ils avaient voté pour Clinton, exactement de la même façon. Enfin, et ils ont à nouveau, d'ailleurs, voté Clinton comme ils avaient voté pour Obama, dans les mêmes proportions. La communauté juive américaine est... Alors, il faut comprendre d'où ça vient aussi. C'est-à-dire que historiquement, il y a eu ce qu'on a appelé l'alliance entre les Juifs et les Noirs, qui était une alliance très importante dans les années 60. Parce que la jeunesse juive était particulièrement engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale. Ça s'est dégradé depuis, cette alliance. Et cette alliance, elle a explosé. Elle a en particulier explosé sous la pression de l'AIPAC et du lobby pro-israélien, mais aussi à cause de l'émergence, par exemple, de Farah Khan et des Black Muslims. Mais pour en venir à ce qui se passe maintenant est dû essentiellement à deux choses. La première, c'est le lien entre Netanyahou et Trump, entre l'Israël de Netanyahou et les États-Unis de Trump. Ça, pour la jeunesse juive américaine, on peut dire pour les juifs américains en général, mais pour la jeunesse juive américaine, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Parce que la jeunesse juive américaine, elle est globalement l'héritière de cette épopée de la lutte pour l'émancipation. Elle porte ça. Et donc, il y a énormément de jeunes juifs qui sont engagés dans la société civile, comme avocat, comme toutes sortes de professions, mais engagé sur les questions sociales et aussi sur les enjeux internationaux. Les jeunes juifs ont été, beaucoup d'entre eux, au premier rang dans la lutte contre l'apartheid, par exemple, aux États-Unis. Brusquement, ce lien entre un président américain, qui est quand même, sinon lui-même, un suprémaciste blanc, quelqu'un qui, disons,
n'a pas d'objection profonde
vis-à-vis du suprémacisme blanc. Le suprémacisme blanc, historiquement, il n'est pas seulement contre les Noirs.
D'ailleurs, l'attentat...
Il est anticatholique, c'est très important parce qu'on l'oublie très souvent. Il est profondément anticatholique et il est antisémite aussi. Je vais vous raconter une histoire. Trump est élu, mais il n'est pas encore entré en fonction. Il y a une organisation américaine, alors, qui s'appelle la Zionist Organization of America, l'organisation sioniste des États-Unis, mais ça n'est pas l'organisation qui regroupe tous les sionistes, c'est le nom du groupe le plus extrémiste, le plus à droite, le plus pro-colon dans le sionisme américain. Qui invite-t-il à leur dîner d'honneur où ils font en vérité une levée de fonds tous les ans, comme aux États-Unis, tout le monde fait des levées de fonds? Ils font une levée de fonds. Qui est l'invité d'honneur? Steve Bannon. Steve Bannon, il est accusé par sa femme d'avoir tenu des propos antisémites à Pierre Larigot. Donc, une organisation comme la Ligue anti-diffamation, qui est la principale organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme, c'est inadmissible pour eux. C'est pas possible d'inviter Steve Bannon à ce dîner où on va recueillir des fonds pour l'organisation. Il y a un tollé. Il y a un tollé. Et donc, finalement, formellement, Bannon renonce à venir. En réalité, la Zionist Organization of America lui dit « Bon, allez, cette fois-ci, ça ne marche pas. » La fin de l'histoire est différente, c'est que quand Bannon va être viré par Trump de l'administration, au dîner suivant, il est l'invité d'honneur de la Zionist Organization of America. Mais ça, historiquement, c'est aux franges du judaïsme américain. Il y a toujours eu une frange du judaïsme américain qui a été d'extrême droite. L'homme qui a été vraiment le parrain en politique du président Trump, il s'appelle Roy Cohn. Bon, Roy Cohn, il a été le principal maître d'œuvre juridique du macartisme dans les années 50. Bon. Donc, que ces juifs-là ont existé, ils ont toujours existé aux États-Unis, mais ils sont extraordinairement marginaux. Brusquement, aujourd'hui, ils sont autour de Trump. Un type comme Steve Miller, qui est un véritable suprémaciste, lui, c'est un suprémaciste blanc déclaré, il est dans l'administration Trump. Et il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Mais ça, pour le judaïsme américain dans son ensemble, mais c'est la honte.
Alors, c'est un peu paradoxal que le président le plus pro-gouvernement israélien, le plus pro-israélien qui va justement déménager l'ambassade américaine oui. de Tel Aviv à Jérusalem, ce que aucun président, y compris George Bush, n'avait accepté de faire. Et si on vous entend bien, c'est ce président-là qui a la politique la plus fortement engagée aux côtés d'Israël, qui va créer un divorce avec la communauté juive, avec l'essentiel oui. de la communauté juive américaine.
Mais oui. Ce divorce, il est dû à ce lien entre Netanyahou et Trump. Donc, dans cette affaire, Trump n'est pas tout seul. Il est avec Netanyahou. Et avec l'image de plus en plus dégradée de Netanyahou dans l'opinion américaine en général et dans l'opinion juive américaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... il y a quelqu'un qui est un type, comme on dit aux États-Unis, « mainstream ». C'est-à-dire vraiment, il est le courant central d'opinion américain, qui s'appelle Rotkop, qui a dirigé Foreign Policy. Bon, c'est un professeur distingué. Il vient de faire un papier il y a un an, où le titre du papier, c'est, il faut que je vous dise, « Je n'y arrive plus à défendre Israël. Je ne peux pas défendre cet Israël-là. » Et il raconte dans ce papier, j'ai été éduqué, mon père était un sioniste fervent, il est arrivé d'Allemagne, il a fui l'hitlérisme, etc. J'ai vécu dans une famille sioniste toute ma vie, je l'ai été moi-même, j'ai soutenu la création. Bon. Mais aujourd'hui, je n'y arrive plus.
C'est ce que fait aussi Thomas Friedman depuis déjà plusieurs années. Oui.
Voilà. Donc si vous voulez, il y a cet élément-là, et puis la difficulté à soutenir la politique israélienne, les citations sont sans fin. Y a, par exemple, sur toutes les décisions prises par la Knesset récente sur la limitation des droits politiques, des droits civiques, des droits humains en Israël, la pénalisation du boycott, le fait qu'on peut arrêter les gens, ça joue ça. Il y a des dizaines et des dizaines d'Américains qu'on ne laisse pas rentrer en Israël. Actuellement, que le gouvernement empêche de rentrer.
Parce qu'ils ont été critiques
du gouvernement israélien. Ou parce qu'ils viennent pour témoigner pour les Palestiniens. Ou pour les aider. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect Trump lui-même. On ne peut pas être à la fois contre Trump sur tout ce qu'il fait, sauf pour Israël. Il y a eu un sondage qui a été dans la communauté juive sur le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, en Israël, ça a dû faire du 95% parmi les Juifs israéliens, faut pas oublier
d'opinion
favorable. En Israël, aux États-Unis, c'était 48.
Les Juifs américains, puisque signalons que les Juifs on peut faire des sondages ethniques, l'on peut selon les sondages dire qui est quoi,
absolument.
Et donc seulement, mais c'est déjà la moitié quand même. qui ont approuvé le transfert dans l'ambassade.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que la moitié s'y oppose.
Mais vous auriez fait ça il y a 10 ans. C'était 80%.
Oui. Alors, il faut signaler que vous avez été longtemps correspondant du Monde aux États-Unis, que vous connaissez bien la société israélienne. Alors, est-ce que, à vous entendre, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un divorce entre l'AIPAC, qui est la principale organisation de soutien à Israël, et la communauté juive américaine? Est-ce que, parce que l'AIPAC, l'American Israeli Political Action Committee, soutient mordicus Donald Trump, et donc ne reflèterait plus l'état moyen de l'opinion des juifs américains?
D'abord, je dirais que je ne crois pas que l'AIPAC ait jamais été l'émanation de la pensée moyenne des juifs américains. Mmh. L'AIPAC est un lobby. Aux États-Unis, les lobbies sont reconnus. C'est un lobby, comme Boeing a son lobby, comme l'industrie pharmaceutique a son lobby, la finance a son lobby, les hedge funds ont leur lobby, etc. C'est un lobby. Donc, ils défendent des intérêts particularistes et c'est parfait. Aux États-Unis, c'est perçu comme totalement légitime. Ils sont inscrits au Congrès, ils ont leurs avocats, leurs juristes sont inscrits au Congrès et ils peuvent légitimement travailler et faire du lobbying auprès des élus. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont représentatifs. Il faut comprendre une chose. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui est différent de la France. En France, vous avez un organisme qui s'appelle le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, et qui regroupe deux fonctions qui, aux États-Unis, sont séparées. Aux États-Unis, vous avez d'un côté le lobbying, qui s'appelle pas lobby juif, mais qui est lobby pro-israélien. Donc, il y a des juifs, mais il y a aussi des gens qui viennent, pour beaucoup, des milieux évangélistes, par exemple, et qui participent aux activités de ce lobby.
Ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus déterminés à soutenir Netanyahou.
Mais et parmi eux, quand on organise le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui est-ce que Trump amène dans ses bagages? Il emmène deux prêcheurs évangélistes, dont l'un est un type qui est connu pour avoir tenu des propos antisémites, ou du moins des propos qui correspondent à sa vision du monde, c'est-à-dire une vision du monde dans laquelle, à la fin, Jésus revient, après Argamédon, et après Gog et Magog, et après, etc., etc. Et à ce moment-là, les Juifs abandonnent le judaïsme et se convertissent donc à la vraie religion, la seule au monde qui mérite d'être respectée, c'est-à-dire la religion chrétienne, telle que les évangélistes la comprennent. Moi, j'ai interviewé une fois la patronne de la Christian Coalition of America, et je lui ai demandé, mais alors, imaginons que ça advienne. Et s'il y a des juifs qui ne reconnaissent pas que Jésus était le Messie? Ah, m'a-t-elle répondu à cela, que voulez-vous, la guéenne, etc. Voilà. Ils iront tous en enfer. Bon. C'est lui qu'on amène, pour fêter. Il faut comprendre, il y a une alliance objective entre ce qu'est devenu cet Israël qui est engoncé maintenant dans l'identitarisme. Il n'y a pas que, dans le monde. Ça fleurit de partout, ça fleurit chez Bolsonaro, chez Orban.
Il y a une comparaison, on dit que souvent les pays de l'Est qui se reconnaissent, qui sont très proches d'Israël, c'est aussi sur ces questions de la vision de l'identité.
Mais bien entendu, bien entendu. Et on les trouve aussi aux États-Unis. Ils existaient chez les Juifs depuis toujours, mais ils étaient incroyablement marginaux. Aujourd'hui, ils occupent le devant de la scène parce que Trump le permet. Et c'est ça qui est insupportable pour la majorité du judaïsme américain.
Alors, est-ce que ça se traduit par une sorte d'indifférence à l'égard d'Israël ou au contraire une mobilisation? On a beaucoup parlé du G-Street.
Je pense qu'il y a
deux choses. George Soros a fait des choses. On sent qu'il y a, que ça bouge un peu dans la communauté américaine. Est-ce que...
Je dirais qu'il y a deux réactions. C'est les deux que vous décrivez. Il y a une partie de la communauté juive qui développe un tropisme. Et ça, il ne faut pas négliger ce phénomène, parce qu'il est vraiment important. Et ce tropisme, c'est, on peut être juif sans Israël. Moi, je m'en fous, moi, d'Israël. Ce n'est pas mon pays. Moi, je suis américain. C'est bien, c'est mal. Moi, je voudrais avoir le rapport à Israël que les gens ont à la Norvège ou à l'Uruguay. On s'en fout de la Norvège et l'Uruguay. Eh bien, moi, je me fous d'Israël.
Ça, c'est tout en se revendiquant comme juif.
Très juif.
Et en étant pratiquant.
Tout en affichant une identité juive. Et cela augmente en nombre. Il faut comprendre que ça serait une longue description, mais la communauté juive américaine est la seule qui a bâti, d'une certaine manière, une communauté concurrentielle à celle des Juifs israéliens. Ils sont aussi nombreux. Mm-hmm. Ils ont une autre religion. En Israël, vous avez le grand rabbinat, etc. Vous avez une... Là, il y a diverses mouvances. Toutes sont légitimes. C'est un judaïsme beaucoup plus divers. Et c'est un judaïsme qui est dans son ensemble, si on exclut les nouveaux amis des évangélistes, qui sont les Juifs ultra-orthodoxes, mais si on exclut cette frange, qui est assez puissante aux États-Unis, les autres sont globalement des gens socialement progressistes et qui détestent l'idée identitaire.
On pourrait dire qu'ils ne sont pas anti-sionistes, mais ils sont asionistes.
Oui, ils sont asionistes. Ils veulent, ils sont même, je ne sais pas comment dire, oui, c'est sans doute le bon terme, c'est asionistes. Ils sont ni pour ni contre, ça ne les intéresse pas.
Ce n'est pas leur problème.
Voilà. Et vous avez une deuxième partie. Il y a une deuxième partie qui, elle, est en croissance non négligeable et qui se focalise sur la distanciation politique avec Israël, qui n'est pas, c'est pas un enjeu individuel, c'est un enjeu collectif. C'est-à-dire, il y a une organisation qui s'est appelée Not in My Name, c'est-à-dire ce que fait Israël n'est pas en notre nom, au début de la deuxième intifada. Aujourd'hui, il y a une autre organisation qui est très activement hostile à Israël, qui s'appelle If Not Now, c'est-à-dire ça reprend une phrase célèbre du Talmud de Hillel qui dit « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?» etc. Bon. Mais,
hostile à Israël ou hostile au gouvernement israélien?
Ils sont pour BDS. Alors, est-ce que BDS est hostile à Israël ou au gouvernement? BDS est hostile à l'occupation. Point. Et à tout gouvernement qui perpétrera, qui continuera l'occupation. Ça, c'est la position de If Not Now. Ils sont contre l'occupation. Donc, ils vont soutenir des gens, parmi lesquels il y a des gens qui sont des sionistes revendiqués, par exemple Breaking the Silence. Hein? Même si, il se trouve que j'étais en Israël il y a 3 mois, j'en ai vu pas mal, eux aussi commencent à prendre beaucoup de distance avec le sionisme. Enfin, voilà, ils n'y sont pas hostiles dans ce qu'ils disent. En tout cas, ils se présentent comme des patriotes israéliens. Et donc, vous avez dans la jeunesse juive, bon, on va prendre le cas de BDS. Donc, BDS, c'est boycott, désinvestissement, sanctions. C'est un mouvement, donc, comment dire, pacifique, qui appelle, tant que la colonisation se poursuit, au boycott, au désinvestissement et aux sanctions d'Israël. Aux États-Unis, il y a 2 populations qui forment, qui sont les militants de ce groupe. Et ce groupe est en très grand développement sur les campus américains, et en particulier sur les campus importants du type Berkeley, Harvard, Columbia, etc. etc. Et vous avez parmi eux des étudiants arabes ou musulmans. Ça, c'est la moitié, en gros. Et l'autre moitié, c'est des étudiants juifs. En soi, ce n'est pas si étonnant, parce que finalement, qui est-ce qui s'intéresse au conflit? C'est des gens qui, pour une raison ou une autre, ont un rapport affectif. Ou bon, voilà, donc c'est normal que...
Et en France, il y a beaucoup de juifs qui sont, je dirais, comme pro-Palestine, en tout cas, qui critiquent la politique israélienne.
Oui, on les entend beaucoup moins qu'aux États-Unis. En tout cas, sur le plan public, on les entend beaucoup moins. Aux États-Unis, si vous voulez, quand Israël a fait ses lois, en particulier la loi sur l'État-nation, le rabbin Rick Jacobs, qui dirige la plus grande communauté religieuse américaine, juive américaine, qui est la synagogue réformée des États-Unis, qui est la plus importante de toutes les obédiences religieuses juives américaines, a dit que c'était je ne me souviens plus de ces termes exacts, mais enfin, a été d'une radicalité dans sa réponse, a dit que c'était inadmissible que si Israël instaurait un État dans lequel il y avait 2 types de citoyens, ceux qui ont des droits et ceux qui en ont moins ou qui n'en ont pas, Israël va sur les pas de l'apartheid et que c'est inadmissible, qu'il ne peut pas soutenir une telle politique, qu'il faut immédiatement que ça cesse. Enfin, il a eu des termes extrêmement radicaux pour dénoncer ça. On n'a pas entendu ça de la part du CRIF en France.
Bien sûr.
À aucun moment, si vous voulez. Ah oui, ça me semble important, ça, parce que, si vous voulez, le CRIF regroupe les deux, c'est-à-dire le lobby et la communauté. Aux États-Unis, vous avez le lobby d'un côté et la communauté de l'autre. Et ce sont des choses séparées. Il y a des passerelles, forcément. Mais la communauté, en tant que communauté organisée, on appelle ça la Conference of Presidents, a une existence réelle qui n'est pas liée aux activités du lobby. Le lobby pro-israélien est une chose. La vie de la communauté en est une autre. Ça, ça facilite la possibilité de s'opposer au soutien à Israël.
Alors, il est question de faire une législation qui interdirait de promouvoir BDS. Le débat fait rage, à la fois sur les campus, mais également dans la classe politique. Une parlementaire musulmane a été accusée d'antisémitisme parce qu'elle avait accusé l'AIPAC de financer les campagnes. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment là dans une phase tout à fait nouvelle et que cette question qui était sous-jacente surgit vraiment, est-ce que l'AIPAC va de nouveau refermer le couvercle et s'opposer de façon efficace à toute mise en cause de l'action du gouvernement israélien?
Ce qui est nouveau, c'est que les accusations contre Ilhan Omar, qui est cet élu dont vous parlez, et qui est une nouvelle élue au Parlement, les accusations d'antisémitisme, c'est-à-dire si on critique Israël, on est antisémite. Ces accusations ont été reprises à deux occasions. Et dans les deux cas, ça a échoué. Et dans les deux cas, ça a échoué en grande partie parce qu'une série de personnalités juives importantes ont dit « ça suffit ». Ça suffit. On ne peut pas interdire toute critique de la politique israélienne en stigmatisant immédiatement son auteur comme étant un antisémite. Il y a eu deux lobbyistes d'AIPAC, dont un, N.G. Rosenberg, qui a travaillé pendant 15 ans à l'AIPAC.
Que vous citez dans l'article d'Orient 21.
Qui a fait un grand papier dans The Nation, qui est l'hebdo historique de la gauche américaine, pour dire, enfin, de qui se moque-t-on ? On sait très bien que le boulot de ce lobby, c'est d'acheter les voix pour Israël au Congrès. C'est son métier, c'est ça qu'ils font. Donc ils financent les campagnes, on va quand même pas s'offusquer. On va pas faire semblant de pas le savoir. Mais il a dit, c'est pas spécifique au lobby pro-israélien, c'est le travail de tous les lobbies à Washington. Donc ils le font comme le font les autres. Donc ils financent massivement les élus républicains, démocrates, etc. Et c'est pour ça qu'au Congrès, c'est très difficile après de faire passer une motion qui soit critique vis-à-vis d'Israël. Parce que les élus sont tenus par cet argent. Ce qui est nouveau, c'est le fait que... Rappelez-vous, il y a 15 ans, pas tout à fait, 13 ans, quand il y a eu la sortie du livre de
Walter Marshmeyer, voilà, 2007, oui.
En 2006 aux États-Unis, les accusations d'antisémitisme fusent de partout. Ça ne marche plus. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est intéressant. C'est le fait que les démocrates ont voulu faire passer une motion. Ils n'y sont pas parvenus alors qu'ils dominent la Chambre. Et au Sénat, il y a une motion qui est passée qui autorise les États à pénaliser BDS. Enfin, à pénaliser les sociétés qui se soumettraient à l'exigence de BDS de boycotter les territoires, les produits des territoires occupés. C'est passé au Sénat avec beaucoup moins de voix que d'habitude. En général, au Sénat, un truc pro-israélien, c'est 98 sénateurs sur 100. Là, c'est passé avec 72 ou 77, je ne sais plus, en tout cas beaucoup moins. Et il y a un phénomène beaucoup plus intéressant. Il y a déjà 7 sénateurs qui ont annoncé qu'ils étaient candidats à la nomination démocrate pour la présidentielle de 2020. Eh bien, sur ces 7-là, 6 d'entre eux ont fait partie de cette minorité démocrate qui a refusé de voter cette loi, qui pénalise BDS. Et ils l'ont fait savoir. Et en fait, ce que l'on comprend très bien, c'est que ce qui les a motivés, c'est qu'ils savent que s'ils votent pour la pénalisation de BDS, ils vont perdre les suffrages de la jeunesse juive. Ils vont la perdre. Et au-delà d'elle, les suffrages d'une partie croissante de la base démocrate, pas seulement de la jeunesse juive.
Merci Sylvain Sipel pour cet éclairage particulièrement pertinent et quelque chose qui n'est pas suffisamment remarqué encore. Je renvoie bien sûr à la lecture de votre article dans Orient 21, dont vous êtes l'un des principaux contributeurs. États-Unis, fronde au Parti démocrate contre l'influence israélienne. Et puis, je renvoie également à la lecture de la revue America.